has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer.
Salut les potos! Et bonne année! Et bonne année, bonne santé, meilleurs vœux!
Ouais,
parce qu'on s'est pas vu de l'année
encore!
Un mois sans nous! Un mois sans nous, on vous a manqué!
Les gens!
Et ouais, il y a eu 3 jours de neige, on est resté couché!
Il y a eu la grippe aussi!
Ouais. Et bienvenue sur Money Time! Nous sommes donc en janvier, et on peut le dire, cela n'est plus une incohérence ou un effet de début de saison. Nous sommes extrêmement heureux, car on n'oublie pas que Détroit est leader de la conférence Est de la saison régulière. Motor City est encore au sommet de cette conférence. J'en profite, le sport va tellement vite en ce moment que...
Ouais, mais là, c'est parti pour rester en plus.
Ouais, ouais.
Money Time, saison 3, épisode 8. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite, 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange, où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est aussi présent sur les réseaux Facebook, Instagram, et aussi écouté et réécouté en streaming sur www.graphite.net, et même, vous pouvez la podcaster. Alors, au sommaire de l'émission... On va faire l'actu de la balle orange, là depuis un mois, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Lourd.
On n'oublie pas les résultats de nos clubs phares, ils n'ont rien. Un point sur l'Euroleague, pareil, un mois de passé, ça a beaucoup, beaucoup changé. Le Bruno Way, qui est là, toujours aussi agressif. On va se demander s'ils sont dans le même combat. Los Angeles Lakers et New York, ça va pas top en ce moment. Une petite interlude musicale, à la discrétion... de Monsieur Buffa. Le dossier de Money Time, évidemment, on va faire le bilan à la mi-saison, hein, 42 matchs de jouer. Le quiz du Gosbo, un spécial question pour un champion. Et le buzzer beater, l'arbitrage, un sujet qui devient brûlant en NBA et comment gérer les stars. Mais avant tout, je ne suis pas seul pour cette émission et entouré de la crème de la crème. Il est peut-être petit et fit comme un séquel, mais c'est un chasseur hors pair. Il flaire le gibier comme personne, mais c'est avant tout un aboyeur pour mener son équipe au combat. Salut Pascal.
Salut. Je suis caniche.
Séquel, pardon. Ouais. J'ai peur.
Comme le Rottweiler, il ne lâche jamais sa prise. Il le fait suffoquer telle sa défense sur le terrain. Quand il commence à grogner, on se tait pour l'écouter. Salut Bruno.
Salut.
Le copain de toujours, il veille sur la famille et la maison, toujours là pour aider et pour sauver tel le Labrador. Salut El Presidente Baptiste.
Salut tout le monde.
Il est foufou à l'image du Yuski, incontrôlable et pas avare d'efforts. Il mène ce programme tel le Yuski mène son traîneau. Salut Buffa.
Salut. Yuski, moi je crois.
C'est pas mal, hein. C'est quel ?
Ça me va très bien.
Et pour mener tout ça, rien de tel qu'un bon gros Saint-Bernard pour vous hydrater. Hein, une bonne émission, à l'aise sur tous les terrains, mais celui que je préfère, c'est mon canapé devant un match. Et ouais, c'est WAM number 2.
Bravo.
Salut.
Allez, on y va pour l'actu basket. Alors, on va revenir sur un mois de compétition, spécialement au niveau des joueurs. Et tout d'abord, honneur à la France. Messieurs, il devient le premier Français à être starter au All-Star Game. Notre Victor Tour Eiffel Wemby, et je trouve que c'est amplement mérité vu la saison qu'il fait. Le classement de San Antonio et surtout les stats effrayantes en si peu de minutes. 28 minutes de moyenne, 24 points, 11 rebonds, 3 passes et 3 contre.
Ouais, c'est balèze. Hein.
Ouais. C'est mérité quand même.
Ah, à 5000 voix près d'Anthony Edwards. Hein. Ça s'est joué de très peu, mais franchement, oui. Tout le monde veut le voir.
Et même qu'ils finissent cinquième, je trouve que c'est, tu vois, c'est un peu loin, tu vois, dans les hiérarchies.
Ouais, bah après c'est pas un Américain.
Ouais,
ouais, mais... tu peux dire que les Américains votent pour les Américains en premier.
Ouais, mais il est spectaculaire.
Ouais, il est génial.
Et puis il a dit qu'il y allait pour
Oui, pour jouer.
Pour jouer.
Pour jouer. Pour comparer aux autres.
Et on en avait parlé, on s'était dit, en plus, il y a une équipe reste du monde contre deux équipes américaines. Franchement, l'équipe, vous avez vu le roster de l'équipe du reste du monde.
S'il joue vraiment, il est défoncé normalement.
Antetokounmpo.
Jokic,
Shay
et Victor.
un petit Jamal Murray.
C'est pas la peine de faire un match, les gars.
Donnez-leur la coupe.
Ah bah, directement.
Donc, on retrouve aussi côté ouest, parce qu'en fait, on a eu juste les cinq starters côté ouest et côté est. Même s'il va y avoir trois équipes, ça va être un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est, bon, le starter.
Ça a plus trop de sens.
Voilà, ça a plus trop de sens. Mm. On retrouve côté ouest. SGA, donc Shai Gilgeous-Alexander, le MVP en titre. Luka Magic Doncic, le meilleur marqueur de la ligue. La surprise Curry, parce que moi, lui, enfin voilà, il y va parce que c'est son nom. Il fait pas une saison incroyable. Tu vois, Anthony Edwards, je pense plus qu'il mériterait d'être dans les starters que
d'accord.
Curry. Mais bon, le nom fait. Et Jokic côté West, sachant que Jokic n'est pas sûr du tout de jouer vu qu'il est blessé en ce moment. Et côté Est, on retrouve Therese Maxey. Jalen Brunson, le même qu'à Jokic qui est blessé en ce moment. Jalen Brown des Celtics.
Ouais, c'est bien, c'est mérité.
Giannis Antetokounmpo et Sa Majesté Cunningham de Détroit.
Ah, c'est super pour Cunningham. Non, mais génial pour Cunningham, c'est super.
Mais pareil, là, tu vois, enfin, Donovan Mitchell, ok, Cleveland, ils ne font pas une bonne saison, mais alors lui, il tape des scores.
Bah ouais, mais enfin, moi aujourd'hui, tu me demandes si tu préfères avoir
Cunningham
ou Mitchell comme franchise player. Moi, tous les jours, je te dis Cunningham.
C'est l'histoire de Mitchell, ça en plus.
Oui,
toujours
c'est
faire des gros,
des gros saisons régulières.
Ouais.
Ouais, après, je trouve quand même que c'est mal réparti, tu vois, les starters du All-Star Game.
D'autre côté, enfin, tu mets Booker, pareil.
Non, mais t'as Booker. Quand même six gars qui sont meneurs, qui mènent le jeu de leur équipe.
Oui, ouais.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr,
bon, après,
c'est n'importe quoi.
On a déjà eu ce débat 25 fois.
Oui.
L'intérêt du All-Star Game, à part de nommer les gens qui méritent d'y être, il n'y a plus beaucoup. Hein,
cette année, vraiment, si c'est les États-Unis contre le reste du monde, moi, je pense que ça,
chacun
ça peut en donner un petit peu. Oui, je sais. Ouais. Mais tu sais.
On en reparle au mois de février.
après la purge.
C'est ça. Mais moi, je crois en l'être humain, tu le sais.
C'est bon, c'est bon. Voilà. Je suis trop aigri, moi, comme mec.
Et pour finir sur le Star Game, est-ce que c'est une surprise de ne pas voir LeBron James ni un seul joueur des Clippers, sachant que tout se passe à...
Bah, Kawhi, il va être invité, il va y aller, Kawhi.
Tu crois?
Ouais.
Après, LeBron,
Warden.
Moment où tu mets Doncic dans le starter, c'est compliqué de mettre LeBron avec.
Ah ouais, c'est clair.
Ouais, c'est vrai qu'ils font pas non plus...
Ça fait quoi, 21 ans? Il était dedans, je crois, c'est ça.
Curry, tu parlais de Curry, mais Curry, il fait quand même une saison à 27 points de moyenne.
Il tient son équipe.
Il tient son équipe tout seul. Bon, LeBron, aujourd'hui, c'est la troisième option offensive de l'équipe.
Il faut pas oublier le comportement aussi de l'année dernière. LeBron, il dit, une heure avant le match, il dit « Oh non, finalement, je vais pas jouer. » Hop, puis il se barre et puis il fait... Enfin, il fait ce qu'il veut.
C'est vrai que c'est pas passé. J'avais complètement oublié ça. Heureusement que t'es là.
Le mec, il tient toute la route.
Ah, il tient tout. Tiens, en parlant de passé, il s'est passé quoi il y a 20 ans? Jour pour jour.
Jour pour jour.
Jour pour jour.
Oula.
Alors
oula.
Ah, c'est vrai, personne ne sait.
La naissance de Buffa?
Non. L'anniversaire.
Ouais, c'est pas.
C'est le deuxième plus gros score de toute la NBA. C'est le jour où Kobe en plante
80. J'ai vu ça sur l'équipe.
Ouais, contre les Toronto. Bah voilà, bah tu le sais, tu le dis pas. Bah oui, c'est normal, c'est pas les Celtics.
Le stress, la pression.
Alors, depuis fin décembre, il est out. Le Joker a un genou douloureux et tout le Colorado est en PLS. Ah, je pense que quand ils ont vu qu'il était blessé, ils se sont tous mis par terre en disant « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et pourtant, ça a coïncidé avec le retour de Gordon et Christian Brown. Et Denver ramasse plein de matchs et surtout Jamal Murray a pris le costume de Batman. 6 victoires et 3 défaites sur les 9 matchs. Ah, je trouve ça hallucinant, quoi. Tu perds quand même un mec qui est plus qu'en triple-double par match et ils arrivent à tenir et à prendre beaucoup, beaucoup de matchs et pas des matchs faciles. Hein.
Ouais, mais ça a changé. Moi, je trouve que ça a changé la façon de jouer de Denver aussi. Tu vois, t'étais quand même vachement dépendant d'un joueur. Et là, il y a certains joueurs qui sont obligés de se mettre en avant. Comme tu dis, il a Murray a endossé le costard du leader. Rien que ça,
mais
déjà.
Mais tu vois, ce que tu soulignes, là, ce qui est hyper important, c'est que, tu vois, on prend Jokic, on prend Doncic. C'est deux types qui sont all-around. Ils savent tout faire sur un terrain. Bon, Doncic,
il ne sait pas défendre.
Mais la différence, c'est que...
Ça, c'est toute l'équipe des Lakers qui ne sait pas défendre. C'est
quand même 50% de moi.
C'est vrai. Mais Jokic, il rend les autres vraiment meilleurs. Et je pense qu'en fait, ils ont tous upgradé leur basket.
Oui, c'est ça, je pense.
Il est tellement bon. Et ils ont vraiment un bel effectif. On l'avait dit en début de saison. Franchement, c'est super bien construit, Denver. Moi, j'ai étonné. Peyton Watson, par exemple.
Oui, c'est ça. Il est énorme. Des mecs comme ça.
20 points de moyenne depuis.
Et ça va être terrible quand il va revenir, en fait. Parce que tous les gars, là, ils vont avoir pris la confiance.
Exactement ça.
Ouais, ça va être une équipe.
Il va revenir. Alors moi, j'espère juste qu'il va le faire rentrer de ses petits à
petits. Comme Wemby,
qui se répète pas. Ouais. Et dans les blessures, on a appris cette très mauvaise nouvelle côté Warriors de Jimmy Butler, qui s'est fait le genou. Je pense que la saison est finie et la saison prochaine est mal barrée.
Il a quoi,
35
même un an de plus, hein.
36 ans, je crois.
Le temps qu'il va passer à revenir, ça va être très très.
À 55 millions la saison.
Tu vois. L'année dernière, il y avait le drama Butler à la même période. Mmh. Et on n'a pas compris pourquoi Riley ne voulait pas le prolonger, etc. Ben regarde, tu mets un pas... Parce qu'ils ont mis tout leur pognon sur Butler et sur Curry. Je veux dire, Butler, il va être out pendant un an et demi. Et puis, là, t'es flingué. Là. T'as plus de basket à Golden State pendant...
Et comment ils vont se comporter, là, Golden State ? Ils trade Butler, là, même blessé ? Non, ils tentent un gros trade pour, avec Kuminga dans le lot.
Qui veut le récupérer ?
Bah, ouais.
La décla du GM des Warriors sur Kuminga. Il veut être tradé. Ouais. Mais il faudrait qu'on arrive à avoir des équipes intéressées. Ouf. Ouais. Balle perdue.
Ouais. Bon, ouais,
c'était bien.
Ouais, il a joué cette nuit. Ouais. Mmh.
Ah, parce qu'ils n'ont plus le choix.
Aussi, côté blessure, Jalen Brunson s'est fait la cheville assez gravement. Lui, il manque vraiment à New York. Et on y revient dans un instant.
C'est la différence entre Denver et New York.
Toute la cause de ces blessures, c'est quoi ? L'intensité des matchs, trop de matchs, le pas de chance ? Parce que, franchement, que tu vois Butler qui se blesse, c'est
Mais c'est à faute à pas de chance. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Tu vois, même Jokic, quand il se blesse, c'est à faute à pas de chance. C'est pas... ils sont tous dans un turnover. Tu vois, quand même, cette année, ça tourne pas mal. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent pas certains matchs. Ils essayent quand même de les garder pour...
Et t'as vu, elle commence à reparler du coup des 65 matchs, là, tu sais, pour avoir les trophées individuels.
Ça commence à faire débat,
parce qu'il commence à y en avoir beaucoup, qui commencent à être déjà...
Là, c'est Shea qui va l'avoir par dépit, hein, parce que...
Faut pas qu'il se blesse.
C'est pas non plus...
J'ai écrit un petit
truc. Pas du vol. Ouais, mais enfin, Jokic, là, tous les jours, je le donnais à Jokic cette année.
Durant le mois, les trades ont commencé, du coup, le droit à l'échange de joueurs. Et le gros trade qu'on a vu, parce qu'il n'y en a pas d'autres, d'ailleurs, je suis assez surpris que ça n'aille pas plus vite. On a vu que Trae Young part à Washington pour continuer à empiler les défaites. Hein, qu'est-ce qu'il peut apporter à cette franchise?
Déjà, il ne joue pas jusqu'au minimum au All-Star Game, je crois.
C'est ça, déjà. Moi, je suis moins méchant que vous. Moi, ce qui m'étonne, c'est la contrepartie qu'a eu Atlanta, que je trouve merdique par rapport à un joueur de la valeur.
Je crois qu'on a oublié ce que
c'était Trae Young. Exactement. Trae Young, c'est 25 points, 10 passes chaque saison.
Meilleur passeur l'année dernière encore.
Exactement. Et quand dans une équipe de peintres comme Washington, sincèrement, il va leur faire du bien. Alors, ils ne seront pas champions NBA, faut pas rêver. Mais moi, je pense que c'est un bon deal pour Washington. Par contre, Atlanta a récupéré CJ McCollum, pareil, 35 ans. Ils auraient pu récupérer mieux, franchement.
Il a fait le tour des franchises les plus nulles, en fait, lui.
Ah, ouais, c'est clair.
C'est de Portland à Pelicans.
Il a fait les
à Washington, maintenant Atlanta, je crois que c'est.
Une autre encore.
Et avec Alex Sarr, ça peut donner. Hein. Ça peut être intéressant de voir jouer. Trae Young avec Sarr.
C'est qu'avec Porzingis aussi, tu vois, ça allait le faire.
Koulibaly, il revient quand
il joue jamais. Il joue jamais. Et lundi, on a eu le droit à notre belle journée du Martin Luther King Day. Et on a assisté à un super match au sommet de la conférence Est entre Détroit et Boston. Évidemment, victoire de Détroit.
Évidemment.
Large. Malgré que Boston ait le ballon sur la dernière possession.
Il met les 4 derniers points là.
Et le cercle n'a pas voulu.
Et les 2 derniers. Non.
C'est l'année, je cherche pas.
Enfin, ils jouent dur à Boston. Putain.
Ils jouent dur, mais alors Détroit, ils les ont bouffés au rebond. Hein. Enfin, moi, j'ai vu le match et...
T'as vu Stewart ?
Oui, le mec, c'est...
Oh, les gars.
C'est quoi ? C'est un frigo, on appelle ça un frigo.
Frigo.
Il bouge pas. Frigo, il sert, mais lui, il sert des tartes. Il sert pas des bières, il sert des tartes. Donc, cette soirée est quand même bien sympa, moi, je trouve. Tu te mets à 19h dans le canapé, tu peux rester jusqu'à 5h du matin. Par contre, ce serait bien qu'il le change, que ce soit plus un lundi, quoi. On se fait exprès.
C'est le Blue Monday, en plus.
Ouais. Et aussi, je trouve ça bien sympa qu'un sport aussi populaire qui salue la mémoire de Martin Luther King, le pasteur. Il faut savoir que c'est le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il est assassiné à Memphis par un suprématiste blanc. Et il est né à Atlanta. C'est pour ça que le premier match est à Atlanta de la soirée.
Et il va se retourner dans sa tombe.
Ce qui est dommage, c'est que Memphis n'était pas là. Quoi. Memphis, il jouait en Europe. Là, tu sais, il faisait les NBA. En général, il y a beaucoup d'événements à Memphis pour le... le MLKD, mais...
Et il a écrit ce fameux discours « I have a dream hein. ». Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur leur couleur de peau, mais sur la valeur de leur caractère. J'en fais un rêve aujourd'hui. Et il a aussi contraint la Cour suprême des États-Unis à la suppression de la ségrégation dans les transports scolaires. Pardon. Bref, on appelle ça un mec bien ?
Ouais.
Bon, voilà. Bon, bah, on appelait ça un match.
Et la NBA, là-dessus, ils sont assez leaders. Les joueurs sont quand même assez...
Ouais, même sur le mouvement
Black Lives Matter, c'était...
Ouais, c'est, ils sont réactifs, ouais.
Bah, ils sont pas aimés par...
Ah bah, Trump, il aime pas. Hein.
Bah, non. Ils vont pas à la Maison Blanche, en général, quand c'est ouais. Trump.
On part sur un discours politique.
Une politique ouais.
Allez, on passe au match de la nuit, on y va. Allez. Alors, tout d'abord, on va commencer par les San Antonio... Spurs contre Houston, où on a vu les Spurs bien entamer leur match. Ils ont été vaillants tout le match, hein, jusqu'au troisième quart-temps, avec un avantage allant jusqu'à 14 points. Puis Houston a remis les pendules à l'heure. Şengün a malaxé les cotes de Victor. Retrouvé de l'adresse grâce à Shepard, un peu le facteur X de Houston. Hein.
Carrément.
Aussi Victor, très maladroit, 5 sur 21 au shoot, alors qu'il restait sur une série incroyable à 3 points.
0 sur... C'est combien à 3 points
0 sur 7. 0 sur 7 à 3
points. Il est retombé dans les
3 points. Il est retombé là-dedans.
Ah, mais ils l'ont vraiment écarté du cercle aussi. Hein. Il y avait vraiment une bonne défense.
Tiens, ouais, mais il a forcé beaucoup de shoots. Il a forcé. Il n'a pas laissé toujours le jeu venir à lui comme il sait faire d'habitude. Là, tu vois, vraiment qu'il voulait
marquer. Il n'a pas trouvé de passe, qu'il disait aussi.
Donc, ça ne marche pas.
Et ils ont été très embêtés par la défense d'un petit gabarit crapu. Okogi, bon, un petit, hein, il fait 1m93 hein, le gars. Et, bon, c'est une méthode qui l'embête fortement, ça, de mettre un petit dessus qui l'écarte un peu du panier. Ouais. Et dès qu'il commence à poser la balle, en fait, il y a une prise à deux dessus et il a énormément de mal à s'en sortir. Moi, je pense que vraiment, où il peut progresser, c'est sur son jeu de passe.
Et même Durant aussi a défendu sur lui, apparemment. Bien défendu.
Bon, après, Şengün, il a fait un énorme
match. Capella, le peu de temps où il est rentré, il a fait du sale. Hein, vraiment,
on appelle ça de la viande. Hein.
Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Par contre, tu t'as parlé de Shepard. Moi, je trouve que c'est un super joueur, ce mec. Et je trouve qu'on dénigre tout le temps les petits au basket. Alors, je dis pas ça parce que je suis petit. Hein. Mais on dénigre toujours. On dit toujours, il va être ciblé parce qu'il est petit en défense, etc. C'est un vrai poison en défense. Il a gratté des ballons, etc. Et en plus, c'est un vrai bon joueur de basket. Et donc, il faut réhabiliter un petit peu. Ouais, les petits, ils peuvent pas défendre sur des pivots. Normalement, hein, c'est pas fait pour ça. Mais ils apportent quand même d'autres choses. Brunson en est la preuve. Voilà. Réhabilitons les petits.
Le message est passé.
Merci.
Oh, je suis ému.
On devrait travailler avec la FFBB. Ça serait bien de leur dire aussi.
Surprise dans le duel Utah contre les Wolves. Minnesota perd chez le 13e de la conférence Ouest, avec pourtant un Rudy Gobert encore en double-double, 11 points et 10 points, et 4 contre. Ouais. Keontae George a sorti un match à 43 points en 39 minutes.
Ah, il est ouf, lui.
Ouais. Et surtout...
Quel joueur, je trouve.
Nurkic.
Nurkic, exactement.
Il shootait n'importe comment, les dernières.
Et Utah, ils montraient qu'ils ont tapé tous les gros. Sauf OKC, je crois. Si, c'est ça, je crois. Je sais plus.
Peut-être pas OKC.
Ouais, je crois pas. Mais tout le reste, ils ont tapé tous les gros.
Les Spurs aussi, ils ont
les
Nuggets.
À New York, il a quand même fait la loi dans la
double,
peinture.
Hein.
18 rebonds, 16 points, 10 passes. Mmh. Et moi, je voulais revenir un peu sur ce match, mais surtout pour reparler de Rudy Gobert, tu sais, pendant le mois, là, à Noël. Spoltra, il a eu des mots super sympas sur lui, en le réhabilitant, en disant qu'on le bâchait trop. Et j'ai trouvé ça super sympa, avec une énorme défense. Et que...
Surtout que moi, j'avais regardé le match, c'était le match contre le Heat, là, et je peux te dire qu'Adebayo et Kelly Ware, ils n'ont pas existé, ils n'ont pas vu le jour. Il les a vraiment coupé de la balle. Bravo.
Ensuite, il y avait un super match LA contre les Nuggets. Bon, les Nuggets privés de Jokic, Valanciunas, Brown et une série. Et Doncic a sorti quand même encore une masterclass, 38 points, 13 rebonds, 10 passes. Eux aussi, ils sont bien revenus parce que les Nuggets étaient devant un grand moment pendant le match et les Los Angeles sont remontés dans le quatrième quart-temps pour prendre le lead et gagner.
Murray avait marqué 26 points à la mi-temps et il finit que seulement qu'à 28.
Hein. Ouais. Ensuite, les Warriors, privés de Jimmy Butler, ont chuté lourdement 145-127. Belle défense, les gars, hein, contre Toronto qui avait une fin de Raptors. Mais belle défense, hein, tu prends 145 pions, quand tu regardes par carton, ça commence à peser. Hein.
Ouais. Belle surprise, les Raptors, hein, cette année.
Et gros duel de meneur, hein, par contre. Hein. Quickly contre le chef Curry. Il l'a gagné son duel en alignant 40 points, 7 sur 8 à 3 points. Bon, il est bien épaulé quand même parce que
11 sur 13 au tir.
Barnes et Ingram, 26 et 22 points. Bon, le match a été vite plié, hein, sachant que Toronto a mené 30 points.
C'est bien Toronto. Ouais. C'est une équipe dont on ne parle pas alors qu'ils jouent un sacré bon basket.
Ouais. Alors, moi qui voulais réhabiter les Clippers, qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit? Là, ils ont perdu. Là, ils en gagnent 10 de suite. Ouais, on va parler des Clippers, ça va être bien et tout. Et là, boum, ils se prennent les pieds dans le tapis contre les Bulls.
Les Bulls, on les comprend pas, quoi.
Incompréhensible, les Bulls.
Ils font n'importe quoi.
On tanque pas. Ah,
ouais. Tu sais combien ils ont remis dans le deuxième carton? 45-19, ils ont pris les Clippers. Il y a 7 joueurs à plus de 10 points chez les Bulls. Une adresse record à 3 points. Ils ont mis 25 tirs primés sur le match. C'est le record de la franchise, les Bulls. Ouais,
les Bulls sont 9e, tranquillou. Ouais,
c'est normal, play-in, c'est bien. Ouais.
T'as le hit, les Bulls, les Hawks. Ah,
tiens. Victoire du hit cette nuit contre Sacramento.
Ouais. Ouais. Moi, je te jure, moi, je suis dépité là. En ce moment, le hit, moi, il me dépite. Hein. Il faut que Adebayo, il fasse des 4 sur 5 ou des 6 sur 7 à 3 points à chaque match pour qu'il gagne. C'est bon, quoi.
Et enfin, dernier match, Phoenix a battu Philadelphie. Et pourtant, Philadelphie avait bien joué parce que vu que Paul George ne jouait pas, c'est plus dur pour Phoenix. Bon, et Joel Embiid non plus n'a pas joué. Donc, bon, ça
qui revient très très bien. Ouais. On en reparlera.
Et alors, Phoenix a pu compter sur un Booker. Alors, pour ma part, tu vois, il devrait être All-Star, ce mec-là. Parce que,
Booker ?
Ouais, mais c'est un super joueur.
Alors, peut-être il pas titulaire au All-Star Game. Mais
il y sera, non,
je pense. Ouais, je pense. Parce que, franchement, il maîtrise tout le tempo des matchs et tout. C'est génial.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Ouais. Alors que cette équipe, normalement, elle était prévue hors du play-in, hein, vous savez. Hein. Enfin, ouais. Sauf par les vrais connaisseurs. Enfin, bon, bref. allez, c'est fini pour la nuit. Allez, on retraverse l'Atlantique et on va donner des nouvelles de nos belles équipes isariennes. Et c'était la fin des matchs allés. Donc, arrivé à mi-saison. Et honneur à l'équipe qui joue dans la meilleure division chez les garçons, c'est Beauvais en N3 qui a un super bilan de 9 victoires et 5 défaites. Merci. Et conforte sa 5e place et égalité avec le 3e hein, quand même. Mmh. Ils ont fait une super montée, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Et en plus, la fin de match est folle contre Saint-Martin, les Boulognes. Ils gagnent de 74 à 72. Et il faut aller sur le site si vous aimez vraiment le basket de Beauvais. Parce qu'il y a la fin du match qui est fou parce qu'ils sont à 2 points derrière ou 3 points derrière à 10 secondes de la fin.
Il y a 3 points du capitaine Damien et après interception et panier de la victoire.
Ah ouais, c'était. Enfin, moi j'ai regardé ça sur les réseaux et c'était vraiment sympa à regarder. En Prénat, R1 poule A, Gouvieux a remporté la victoire à Saint-Nicolas d'Arras de 5 points et se retrouve 4e avec 7 victoires pour 4 défaites et reste dans le haut du classement.
C'est bien.
Superbe remontée de Marny là, qui empile aussi les victoires. Ils ont gagné ce week-end contre Dorigny et remonte au classement et se retrouve 7e avec 5 victoires et 6 défaites. Donc cool, hein. Bientôt l'équilibre au prochain match. Hein. On y croit.
Ouais, il faut.
Crépy dans la poule B de Prénat. Donc l'année dernière, ils avaient fait une super saison, mais cette année, c'est quand même plus difficile. Ils perdent de nouveau ce week-end et se retrouvent 7e aussi à 5 victoires et 6 défaites. Il va falloir gagner des matchs rapidement, mais ils peuvent compter quand même sur le retour de pièces importantes.
Ouais, sont revenus.
Il faut que tout le monde, les leaders commencent
à se mettre au niveau maintenant.
Voilà, faut qu'ils se remettent en place. Le coach a du boulot.
C'est ça.
Voilà. Côté filles, en Prénat, les filles ont joué aussi leur dernier match de la phase aller. Et le BBLC de Lacroix gagne à domicile de 7 points contre Armentières et 7e au classement avec 5 victoires pour 6 défaites. Et Compiègne perd à domicile contre Bruet. Le bilan est de 4 victoires pour 7 défaites et sont 8e. Enfin, ce week-end, pour faire beaucoup de salles dans notre département par mes différentes activités, on a assisté quand même à quelques débordements. Alors, un petit message personnel. On reste tranquille, on vient passer un bon moment, on vient encourager les joueurs et les joueuses, on respecte les officiels et on a même le droit de sympathiser avec les supporters des autres clubs.
C'est bien que le message.
Hashtag arrêtez de cracher sur tout le monde. Exactement. Ou faites-le.
Hashtag joue au basket.
Voilà, joue au basket et arrêtez de.
Ça reste un sport. Hein.
Exactement.
Ça bien que les gens,
un sport amateur fait de plein de bénévoles. Ouais. Et voilà. Allez, on reste sur le continent pour parler de l'Euroleague avec un duo aujourd'hui. El Presidente, accompagné de Pascal.
Et j'ai pas mon jingle, moi.
The Final Countdown.
Ok, alors l'Euroleague, messieurs, alors plutôt que vous faire un speech avec le détail, je vais me prendre une balle perdue, de vous faire un speech avec le détail du classement, il y a quand même un truc que je voulais souligner dans l'Euroleague cette année, c'est on n'y comprend pas grand-chose en fait. Clairement, il se passe un truc bizarre, ça s'est produit l'année dernière avec Paris, puisque vous souvenez que Paris, c'est ça, le Paris Basketball faisait sa première saison en Euroleague l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises, Baptiste.
C'est tout à fait vrai.
Et ils ont caracolé un temps en tête de l'Euroleague. Ils ont fait une super saison. Ça s'est un peu essoufflé sur la fin. Sauf que là, c'est l'Hapoël Tel Aviv qui est promu cette année en Euroleague, qui a pris les commandes. Et donc bravo, hein, derrière Micić qui est un super joueur, un vrai talent, ils ont construit un effectif solide, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre en fait, à avoir une espèce de cohérence ou en tout cas d'une régularité dans les résultats des différents clubs. On a Monaco, puisqu'on va parler d'un point de vue plutôt franco-français.
Oui.
Alors Monaco, moi, ils sont français quand ils gagnent. clairement, je le dis. Voilà. Donc Monaco est deuxième.
Deuxièmement, ils font partie de la France.
Oui, géographiquement, ils sont.
Ils n'ont pas tout à fait les mêmes règles.
Ils n'ont pas les mêmes règles financières.
Financières,
mais. Voilà. Mais bon, Monaco est deuxième et assure plutôt pas mal avec un effectif qui est riche et qui lui permet en plus de jouer sur différents terrains, en Betclic Elite notamment, mais aussi dans les autres compétitions. Et puis derrière, Paris.
C'est la Qatar.
Alors vas-y, Baptiste, parle de Paris parce que.
Non, mais il n'y a pas de. Alors oui, ça a explosé complètement la fin de la saison où tout pas mal de joueurs sont partis à droite et à gauche. Moi, je suis un peu le parcours, par exemple, de TJ Short qui était quand même le maillon fort du Paris Basket la saison dernière, qui les a quand même portés à bout de bras pendant deux saisons. Et là, il est au Pana. Super. Sur le banc, voilà.
Il ne joue même plus.
On est double fou. MVP du championnat. Mm. Il était limite MVP de l'Euroleague aussi. Mm. Et là, c'est le désert. Donc, je suis un peu comme Pascal. Je suis un peu perdu cette année. Franchement, j'ai pas accroché du tout à l'Euroleague. Autant l'année dernière, j'avais suivi pas mal de matchs, mais là.
Il a vibré l'année dernière, vraiment.
Même au-delà de Paris Basket, je trouve qu'il y avait vraiment. Il s'est passé quelque chose, mais alors cette année, alors comme on parlait avant, est-ce que c'est aussi cet effet de d'arrivée de la NBA en Europe où certains clubs, on a l'impression qu'ils jouent qu'à moitié
Je crois que ça les déséquilibre un peu quand même, cette histoire-là. Et puis l'Euroleague qui dit qu'il va porter plainte contre la NBA.
Il y a quand même toute une histoire derrière.
L'Asvel qui a déclaré clairement qu'il a même pris une amende parce que financièrement, il ne jouait pas le jeu de l'investissement minimum requis pour jouer l'Euroleague. Donc en fait, on a des clubs, on se demande vraiment ce qu'ils vont y faire ou est-ce qu'ils ont vraiment envie d'y rester. Donc finalement, ça déstabilise toute une compétition. Mmh. Et alors que c'est quand même la compétition reine en Europe, aujourd'hui, on se trouve avec des matchs.
Ça va devenir intéressant quand il va y avoir les matchs couperés à éliminatoire direct.
C'est peut-être
venir.
Un peu long aussi. Ils sont passés à 20 clubs. On est passé de 17 ou 18. Non, 18, je crois. Ils en ont rajouté 2.
C'est difficile. Ouais. C'est la progression.
Là, on repasse à 20. C'est long en fait.
C'est une saison dans la saison.
C'est ça, c'est...
Et puis c'est programmé bizarrement, c'est intercalé. Des fois t'as deux journées dans la semaine. Enfin, c'est compliqué des fois.
En fait, ils jouent du mardi au vendredi. Le but c'est aussi les droits télé. Ils essayent de jouer vachement sur les droits télé, un peu comme la NBA où plus ils vont en mettre dans la semaine et plus ils se disent que les gens vont regarder. Donc.
Mais du coup, en fait, cette construction entre guillemets de championnat parallèle avec un championnat national, finalement, on se retrouve et je pense que c'est le cas de Paris avec des effectifs pour pouvoir jouer l'Euroleague. Il faut avoir un effectif de maboule. Tu dois pouvoir assurer en championnat d'un côté.
Tu penses qu'ils choisissent un peu les matchs ouais.
Mais là, je pense que le problème, c'est que Paris ne va plus rien choisir.
Paris, ils sont morts sur l'Euroleague. Donc, quand tu regardes le classement, je crois qu'ils ont 7 victoires et le 10e, il doit en avoir 13. Je ne connais pas les miracles.
Paris est 17e et le 19e.
Svel dernier. Et encore, il y a une victoire d'écart, je crois. C'est les fins fonds du classement. Et je crois que 10e, il doit être à 13 victoires. Donc. Je sais, les 10 premiers qui passent en play-in.
Bon, Monaco est français, du coup.
Voilà, on va supporter Monaco, ce qu'on dit.
C'est con, parce que c'est vrai qu'on a vraiment vibré, on y est allé quelques fois, ensemble. À la Adidas Arena, c'était vraiment super.
C'est désert, cette année. Ouais. Quand tu regardes, moi je regarde sur DAZN ou sur Squeak, les matchs de l'Euroleague, c'est désert. Moi, je suis allé les voir jouer à Nanterre. Là. J'ai plus supporté Nanterre que Paris Basket parce que franchement, regardant Paris Basket, je me faisais chier. Il faut le dire. Le jeu de Nanterre était vraiment plus intéressant que ce que proposait Paris Basket. Voilà. Donc, on est vraiment passé d'un extrême alors qu'avant... on y allait justement parce qu'il y avait ce côté spectacle.
Puis l'effectif de Paris, il n'est pas si mauvais que ça. Il devrait proposer du basket quand même.
Ouais, mais c'est pas, il n'y a pas de crack en fait. Il y a Ify.
Oui, en fait, il n'y a que Nadir. Ouais, ouais.
Donc il monopolise en plus toute l'attention parce qu'il faut voir comment il se fait défendre maintenant. Ils savent que lui, il peut prendre feu. Mais derrière, les mecs, les cadres qui restent, c'est quoi? C'est Cavalière.
Le gars, c'était un second couteau l'année dernière.
Il jouait même pas, moi, quand
quasiment pas. Donc, ou Herrera, c'est des mecs.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est ceux qui, des gars qui sont restés, c'était pas des joueurs majeurs. Ouais.
Mmh. Ouais. Ok, messieurs. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup. Quelle belle rubrique. Et vive la France.
Monaco.
Attention, attention. Warning, warning. C'est l'heure de lâcher la laisse et laisser croquer notre Rottweiler. Il bave juste à l'idée de mâchouiller des mollets. Toujours aussi grincheux, ses coups de gueule sont légendaires. Et moi j'adore, c'est l'heure du Bruno Way.
Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content.
Allez, bonsoir à tous, bah, bienvenue dans le monde merveilleux des NBA Awards, où les trophées qui brillent presque autant que les genoux des joueurs après 80 matchs de saison régulière. Aujourd'hui, on va parler d'une règle qui commence à faire grincer des dents, celle des 65 matchs joués, pour être éligible aux récompenses individuelles. Une règle qui, cette saison, risque de priver des monstres comme Nikola Jokic, Victor Wembanyama ou Giannis Antetokounmpo de leur trophée, parce qu'ils ont osé se blesser. C'est scandaleux, non ? Bon, instaurée en 2023-2024, cette règle vise à lutter contre le load management. Donc c'est une pratique qui consiste à reposer les stars pour éviter les blessures ou les fatigues. La NBA veut voir ses vedettes sur le parquet pour le bonheur des fans, des diffuseurs et des sponsors. Résultat, si tu veux un trophée, bah faut jouer au moins 65 matchs. Sinon, c'est désolé, t'as pas payé ta licence, tu joues pas. Sauf que voilà, cette saison, des joueurs comme Jokic ou Wembanyama, qui sont clairement parmi les meilleurs de la ligue, risquent de se faire exclure des awards à cause d'une blessure. Alors imaginez un joueur qui domine la saison, mais qui à cause d'une entorse ou d'une fatigue se trouve privé de MVP, du trophée de MVP. Parce qu'il a joué 64 matchs au lieu de 65. Pendant qu'un All-Star moyen qui a joué 66 matchs peut se retrouver récompensé par défaut, entre guillemets. En fait, c'est l'ironie. Les joueurs, ils veulent éviter que la NBA veut éviter que les joueurs se reposent trop, mais en même temps, elle les pousse à jouer blessés pour ne pas arrêter le seuil fatidique des 65 matchs. Résultat, bah, des risques accrus de blessures graves et des stars qui jouent à moitié en forme. C'est génial. Les défenseurs de la règle disent que c'est pour éviter que les joueurs se reposent trop et pour garantir un spectacle de qualité. Mais historiquement, les MVP étaient souvent des joueurs qui dominaient la saison, même s'ils jouaient un peu moins de matchs. Et puis, est-ce qu'un joueur qui joue 65 matchs à 25 minutes, c'est vraiment plus méritant qu'un joueur qui joue 60 matchs à 38 minutes ? Je sais pas. Pour une petite question subsidiaire en passant, combien jouait de minutes encore le GOAT ? Donc le GOAT, vous savez qui c'est, hein, il n'y a pas de débat. Lors de sa dernière saison LeBron, NBA. Hein, oh. Lors de sa dernière saison NBA, par exemple, ouais, le GOAT.
18, 20, même pas.
36 ?
Non.
Michael Jordan, à 39 ans, lors de sa saison 2002-2003 au Washington Wizard, ah, il a joué 82 matchs à 37 minutes et 20 points de moyenne.
Ouais.
Ouais. Ouais, okay. Amen. Les opposants à cette règle, eux, ils soulignent que la règle est trop rigide, elle tient pas compte des blessures, des contextes, elle peut influencer les contrats des joueurs. Car certains bonus, faut pas oublier, sont liés aux récompenses individuelles. Bref, c'est un peu comme si on punissait les joueurs pour avoir un corps humain. Une deuxième petite question subsidiaire, quel est le MVP qui a le total de matchs le plus faible dans l'histoire ?
Curry.
Non. C'est pas vieux.
Derrick Rose.
C'est monsieur Embiid. En 2022-2023, 66 matchs.
Ouais, mais pour lui, c'est énorme.
Ah ouais.
Joel Embiid.
Ouais, ouais.
Alors, est-ce qu'il faut revoir la règle des 65 matchs ? Peut-être. Mais en attendant, une chose est sûre, cette saison, les NBA Awards risquent de récompenser des joueurs qui ont surtout réussi à éviter les blessures, plutôt que ceux qui ont dominé la ligue. Alors, si Shai Gilgeous-Alexander se blesse, bon, on lui souhaite pas. Si Nikola Jokic manque encore un peu de matchs, là, il a 32 matchs joués sur 44. Il sera à 70 matchs s'il joue les 38 derniers, mais il est encore blessé. Alors, Kate Cunningham ou Jalen Brown pourraient être MVP ? Bon, ça nous arrange, nous, Mehdi, ça nous arrange un peu.
Oui, moi, je suis d'accord. Hein.
Et si Victor Wembanyama, qui a joué 31 matchs sur les 45 jusqu'à présent, il sera à 68 matchs s'il joue les 37 derniers ?
C'est peu probable.
Il le manage bien, quand même.
Mais s'il manque encore quelques matchs, ça sera Rudy Gobert qui va faire le défenseur de l'année. Et il grimpera encore dans ma hiérarchie des meilleurs pivots des 30 dernières années.
On y
reviendra. Ça, je m'égare, c'est un
autre. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Et cette règle a été faite à cause de certaines stars qui étaient vraiment managées. Mais je la trouve assez injuste pour celui qui se blesse. Après, est-ce que si tu dis, si ça se blesse, on compte pas les matchs manqués, est-ce que ça va pas y avoir tendance à dire, ah, j'ai un petit peu mal au genou?
Ah oui, c'est le problème, en fait.
En fait, il n'y a pas de solution.
Mais historiquement, les journalistes prenaient, enfin, surtout les gens qui votent, ils prenaient ça en compte, quoi. Tu voyais bien que c'était quand même.
Oui, oui, oui.
Atténué,
c'est un mec qui avait fait 30 matchs à 35 points de moyenne, il était pas du MVP.
Mais on sait bien ça. Ouais.
C'était une question de.
Mais derrière, il y a des contrats. C'est mais partie de la NBA.
Là, t'as mis le doigt sur le problème, en fait. C'est que pour avoir certains bonus dans ton contrat, il faut que t'aies joué un certain nombre de matchs et que t'aies des distinctions individuelles.
Ouais.
Donc, tu vas faire jouer des mecs, effectivement, sur un pied.
Ou alors, tu les fais rentrer,
tu les fais sortir tout de suite. Mais c'est pas très constructif, quoi, clairement.
Ouais, c'est vrai que. Enfin, c'est injuste. Et d'un autre côté, tu as eu l'impression qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour éviter que les joueurs se.
Mais c'est un débat compliqué.
Ah bah oui, bien sûr que c'est un débat compliqué. Eh ben merci, monsieur Bruno. C'est très 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 gentil.
Merci, monsieur.
C'était pas trop une destruction comme d'habitude. Hein.
moi méchant. J'avais pas de méchanceté à l'intérieur de moi.
Ah, ça y est.
Je n'avais pas d'équipe. Ah,
c'est pas votre raison.
Oh, c'est la nouvelle année.
Ou alors ça aurait été gratuit.
Son cœur est vert.
Nous, on aime bien quand c'est gratuit. Bon.
Allez, maintenant, on va évoquer deux franchises mythiques. Enfin, une qui gagne beaucoup plus que l'autre. Avec New York et les Los Angeles Lakers. Et pour nous amener sur les débats, on a besoin d'un petit récapitulatif sur la saison de ces deux teams. Et pour ça, Pascal va nous éclairer. Que se passe-t-il dans la Cité des Anges et à Big Apple ?
Eh bien, moi, je dirais, on pourrait titrer ça déception, scepticisme et réalisme. Comme on va aborder le bilan de mi-saison, on va évoquer deux équipes, on va leur régler leur compte tout de suite, qui présentaient quelques garanties il y a encore un mois et qui, depuis, semblent montrer l'étendue de leurs limites, dans le meilleur des cas, ou pire, ce qu'on pourrait appeler une perte de valeur et d'identité. À ma gauche, les Lakers, leur trio aussi surpuissant en attaque qu'incompétent en défense. La hype du début de saison est déjà loin. À ma droite, les New York Knicks, leur trophée NBA Cup en poche. On leur promettait le trône à l'Est, qui devait aller avec. Sauf que Détroit le trouve très confortable, le trône à l'Est, et ne veut plus le lâcher. Et comme les Knicks n'ont pas fait preuve du sérieux nécessaire pour s'y asseoir, voilà. Alors à ce jour, sur les 12 derniers matchs, les Lakers atteignent difficilement l'équilibre. Pour les Knicks, c'est pire encore. 3 victoires en 9 défaites, dont 4 en cours, là, actuellement. Alors on peut trouver des excuses de chaque côté, hein. À Los Angeles, Austin Reeves est absent depuis Noël. DeAndre Ayton, nous, on fait DeAndre Ayton. LeBron James est quarantenaire. Le Blue Monday vient de passer. Et à New York, on pourrait dire que Brunson a le corps meurtri, comme Josh Hart. Alors, Brunson, Hart, l'âme et le cœur des Knicks. Hein. Ils font donc du temps partiel. Kat est en dessous du niveau censé être le sien. Et dans les deux cas, moi, ce qui est, je trouve assez remarquable, c'est que ces équipes tournent avec des lacunes criantes en défense. Alors pour New York, le changement de philosophie avec le remplacement de Thibodeau par le surcoté Mike Brown, pour moi aussi bon que le chanteur, ça a vraiment ça a interrogé. Clairement.
Il est meilleur, le chanteur.
Ouais, c'est Mike Brown. Pardon.
Il a été élu deux fois coach de l'année quand même.
Oui. James Brown.
Ouais, enfin moi je suis assez sceptique sur Mike Brown. La frustration est encore plus marquée à New York qu'à Los Angeles, hein, parce qu'on a renforcé l'effectif durant l'intersaison pour s'assurer une fraîcheur printanière que n'autorisait pas le basket total de Thibodeau. En l'état, faut être réaliste, hein, du côté des Lakers, les stats du trio Doncic, LeBron, Reeves sont en trompe-l'œil, pas d'impact défensif, une équipe qui regarde tous les soirs Luka faire son show, ça apporte la balle pendant 23 secondes, comme LeBron en début de carrière, et ça rend pas ses coéquipiers meilleurs. Alors il faut pas s'y tromper, hein, sur les 6 victoires pour 6 défaites des Lakers, les victimes, faut les connaître, hein, les Hawks, les Pels, les Grizzlies deux fois, les Kings et les Nuggets cette nuit, d'accord, mais privés du Hawks.
Bien amoindri. Hein.
Voilà. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? D'où vient le problème?
Alors, comme tu dis, c'est bien deux cas différents. Moi, je pense qu'à New York, ils ont voulu changer de coach parce que tout le monde disait qu'ils jouaient trop et ainsi de suite. Mais là, si tu regardes bien, ils y reviennent. Ils y reviennent.
Il a repris la même méthode.
Exactement. Ils jouent à 7-8. Ils les amènent au bout du bout du bout. Et la blessure de Jalen Brunson, ça a été une catastrophe. Parce que là, ils n'ont plus de meneur, ils n'ont plus d'âme. Ils ont plus de mecs qui leur sauvent les matchs en leur collant 30 points. Et dans le quatrième, c'est donnez-moi le ballon. Josh Hart, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bah parce oui, que ce gars-là, vraiment... c'est un guerrier. Ouais, ok, il va pas te mettre 30 points par match. Mais ce mec-là, il donne le ton en défense. Ils sont encore sauvés parce que Anunoby se blesse pas. Un mec quand même qui est sous-coté de ouf, lui. Ouais, parce que lui, j'adore ce joueur. Et un mec qui n'arrive pas à tenir et qui n'a jamais été et qui sera jamais un franchise player, c'est Karl Anthony Towns.
Mais la question elle est autour de lui.
Hein. Oui, mais c'est un bon joueur.
Il est dans toutes les rumeurs, dans les rumeurs de trade.
Ouais, mais en option 2, c'est un super joueur, moi je trouve. Tu vois,
oui, ok. Il faut qu'il soit une option 2.
Ah oui, tu veux laisser passer en option 1. Tu sais, les gens, ils ont vite compris. Hein. Tu mets quand même un grand dessus pour l'embêter parce que c'est un grand qui n'est pas si grand. Et à l'extérieur, quand il est bon au shoot, bah, il fait des dégâts, mais c'est pas tous les soirs. Et c'est ça le souci. Au Lakers, c'est l'inverse. En attaque, c'est une super attaque, hein, les Lakers. Hein.
Oui.
Bah, ça met dans. Mais en défense, tu mets trois plots.
T'as pas trois poteaux, t'as même Ayton.
Oui.
Ayton régulièrement, il est pas là en défense. Ouais, alors le mec, il fait 2-16. Oui, alors il y a des stats, il fait des stats aussi, mais c'est pareil. Ce qui est vraiment trop plus, ce que je soulignais avec les Lakers, les stats sont pas parlantes. Enfin, si tu regardes les stats des joueurs, tu dis, oh, ça c'est une équipe qui est déroulée, tout ça. Mais si tu les regardes jouer, c'est franchement, ils sont flippants. En défense, c'est des oublis de partout. Mais là où c'est très stéréotypé comme
là où ils sont forts, c'est quand même. C'est que la 21e défense sur 29. Par contre, leur bilan est bon. Hein. On va pas se mentir. Moi, ils sont exactement à la place où je les ai mis. Moi, je les avais mis 5e, ils sont 5e. Et ils ont quand même 26-16. Mais ça dépend beaucoup de Doncic. C'est vrai que. Et à force de prendre le ballon et jouer, moi je trouve qu'il s'épuise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il s'épuise.
Il fait trop de choses, ouais. Doncic en attaque.
En attaque.
Il a trop la balle. Et tu sais, t'es l'adversaire, tu sais qu'il va avoir la balle.
On peut voir, il fait tout. Ouais, c'est ça, à chaque possession, il a la balle.
Ben voilà, donc tu vois, t'es hyper prévisible. Et on sait très bien ce qui va se passer en play-off. Ben, les défenses vont se resserrer. Tu te souviens quand
au premier tour, ils vont sauter. Hein, s'ils jouent comme ça, je vois pas.
C'est hyper compliqué. Tu vas leur mettre des Wolves, des mecs.
Tu vas mettre qui?
Puis là, aujourd'hui, il joue Houston.
Voilà, bon.
Si ça s'arrête aujourd'hui,
après, c'est Houston. Je ne suis pas sûr que ça soit Houston, mais même les équipes qui sont en dessous, comme tu dis, c'est le jeu des Lakers, tout le monde peut le lire facilement. Donc, en attaque, tu lis, en défense, il n'y a rien.
Après, il y a quand même un petit espoir que ces deux franchises remontent, parce que c'est deux villes.
New York devrait remonter.
New York, je pense que oui.
New York,
je pense que c'est un trou d'air.
Les Lakers, je pense que l'Est est tellement dégarni, grosso modo, que les Knicks peuvent reprendre quand même. Ils prendront plus la première place à Détroit, je pense qu'ils ne lâcheront plus. Mais ils peuvent encore rester positionnés.
Et puis,
les Lakers, ça va être beaucoup plus dur. Les équipes vont
faire un gros trade aussi. New York, il parle. Enfin, Kat, il est dans plein de rumeurs de transfert pour aller, je sais plus, au Magic, les Grizzlies, les Hornets.
Mais d'accord, mais.
Pour récupérer qui
hein, ouais, c'est ça le problème. Il te faut un intérieur si tu veux.
Si un grec qui dit.
C'est peut-être le seul truc qui peut les sauver.
Ouais, parce que même niveau financier, ça peut être peut-être faisable. Je connais pas le salaire de 4, mais il doit pas être donné, hein, le petit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Buffa? Faut y aller, on est en train. Oh là là, je vous jure. Qu'est-ce qu'il organise bien les choses. Eh ben, c'est ton instant, mon petit Buffa. Qu'est-ce que tu vas nous mettre comme musique?
Ah, c'est pas que je fais un caprice, mais l'heure tourne vraiment. Bon, on va passer, comme tu m'as demandé, un son en compagnie d'un certain Snoop Dogg. Pourquoi, je sais pas, mais écoute, t'auras un combo de la West Coast. T'auras Snoop Dogg, Corrupt et Dr. Dre, pour ne pas le citer, sur le morceau qui est très connu, hein, The Next Episode, venant de l'album Dre 2001, enfin de Chronic 2001 exactement, voilà, qui est sorti en 99 si j'ai une bonne mémoire. Donc c'est un classique, on va tous prendre du plaisir dessus. On écoute ça, on se retrouve juste après dans Money Time sur Radio Graphite. The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da, 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E.
Yeah. You know who's back up in this motherfucker. Burn this shit up.
DB, GC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress.
It's the motherfucking D.R.E.
Dr. Dre, motherfucker.
You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CBT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on.
What's up, bitch?
Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode.
Hold up. My niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.
Merci, Mr. Snoop.
C'est bien, ça.
T'avais oublié ça.
Ah ouais, la petite fin et tout. Allez, on passe tout de suite au dossier de Money Time, le bilan de la mi-saison. Et on va accélérer. Alors, on commence par la conférence Est, avec les deux premières places surprises. Hein, parce qu'à la mi-saison, on peut dire que maintenant, c'est des surprises.
Oui, c'est
parce qu'on attendait tous New York, Cleveland, Orlando. C'était les trois monstres de la conférence Est. Il n'y en a aucun. La première place, honneur, les Pistons, avec leur star Cunningham. Très bien entouré, Duren, Harris, Thompson.
Ça confirme plus, quoi. Les Pistons, je trouve que ça confirme.
Et Bickenstaff, il faut quand même lui tirer le chapeau parce qu'il a quand même façonné une équipe très, très, très compétitive.
Attendre les playoffs, hein, Loulou, parce que c'est là qu'il a son. Ouais. Là, ça marche.
Enfin, l'année dernière, les playoffs, s'ils ne se font pas voler par New York,
c'est pas New York qui les a volés.
Ah. C'est l'arbitrage.
Voilà, enfin, on y reviendra. Et moi, je trouve qu'à Détroit, il faut aussi donner du crédit aux remplaçants. Parce que les rotations, ils affaiblissent pas.
Bruno Land, très très bon. Land aussi, hein.
Ouais, lui, enfin, puis là, Jalen Ivy, s'il revient et qu'il se remet à jouer comme il y a deux saisons.
Ouais, c'est dur, cette saison quand même. Ouais,
alors, le leader est un peu une surprise, mais alors que dire de Boston, tout le monde voyait en play-in en début de saison et qui se retrouve deuxième avec un excellent bilan de 26 victoires pour 16 défaites et d'un Bron en folie, mon Bruno. Ouais.
Mais ils arrivent à me surprendre, c'est ça qui est dingue. Moi, je les pensais, tu vois, je les voyais un peu tanker en disant tiens, il y a moyen de récupérer un pic, avoir une petite saison tranquille.
Moi, je les voyais pas tanker, mais je les voyais être limités. Ouais, mais et c'était plafonné, tu disais à 50-55% de victoires.
Cette année, c'était l'année, enfin, tu disais où il y avait moyen de tanker, mais tu sais, c'est tant que c'est pas dans l'ADN, quoi.
Bah, c'est bien.
Quoi. Il y a quand même une âme dans cette.
Ouais, voilà, y a de
et les joueurs respectent les principes du coach.
Et Mazzulla, faut quand même aussi lui donner du respect aussi.
Bien sûr, ouais, ce qu'il a construit.
Top 4 Celtic, non, cette année.
Ah oui, top 4. Hein.
Ouais.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Bon, après, les équipes qui doivent se relancer, car plus bas que pressenti, donc on a parlé Cleveland, capable du pire comme du meilleur.
Alors, Cleveland, le ressort est cassé. Hein. Pour moi, là, c'est. Franchement, on se posait la question. Ils ont fait deux saisons de malade. Où ils auraient dû aller loin en play-off, ça s'est pas produit. Là, tu sens que ça a eu un impact.
Y a un truc de
là,
cassé,
le truc est pété. Garland va devoir, mon avis, changer. Mobley, je trouve pas qu'il soit.
Pas bon cette année.
Bah ouais,
défenseur de l'année. Quoi.
Défenseur il est attendu, moi, pas bon cette année.
Sincèrement, c'est pas fou. Hein.
Pas de l'année dernière.
Je suis très inquiet pour Cleveland.
New York, on en a parlé, mais moi, je pense qu'avec les retours, ça va remonter. Et Orlando, qui est poursuivi par une série de blessures incroyables. Et c'est tous les uns après les autres. Ouais, c'est vraiment les chats noirs.
À Toronto.
Pour ma part, justement, Philadelphie et Toronto font un excellent début de saison. Philadelphie, je les vois beaucoup plus haut que ce que je pensais. Et leur jeu est quand même sympa à regarder. Surtout quand Paul George joue pas. Bon, bref, on y revient. Puis viennent les équipes du play-in classique. Miami, Chicago et Atlanta. Atlanta, la plus grosse déception, on est d'accord ?
Ouais.
Parce que quand tu voyais leur recrutement au début d'année.
Milwaukee, la grosse déception aussi.
Ouais. Il est ouais, Pacers, je trouve.
11, je trouve que.
Milwaukee, on savait que derrière Giannis, il n'y avait rien.
T'as Giannis quand même, au bout d'un moment, quand t'as au moins un mec comme ça.
C'était mon dernier point. Que va faire Milwaukee et surtout Giannis ?
Ouais, il sera pas tradé. À mon avis, il sera à l'intersaison. Mais
ouais, c'est une trop grosse star pour que ça soit.
Ouais, je pense pas non plus.
Peut-être qu'il va débloquer beaucoup de choses.
Ouais.
Enfin, allez, côté ouest, donc les prétendants sont présents avec un point d'honneur, San Antonio pour moi. Deuxième, je trouve que c'est mérité.
Et ça, Baptiste et moi, on l'avait dit quand même.
Ouais, vous prenez les premières émissions. Ça,
pas, et en plus, ils les ont battus deux fois au KC quand même.
Trois fois sur quatre.
Ouais. Oh, c'est beau. À part Wemby, je trouve que Fox fait une saison remarquable et qu'il fait super bien jouer son équipe.
La grosse
perf, c'est qu'ils perdent moins de ballons qu'en début de saison. T'as vu les turnovers, quoi.
Cette nuit contre Houston, ils perdent pas beaucoup de ballons. Alors, ils perdent le match, mais à la limite, ça, c'est plus une grosse défaillance et puis un gros run de Houston qui, derrière, un chien part dans feu. Mais non, c'est quand même propre. Après, moi, je mets un petit bémol quand même sur San Antonio. Il y a des mecs, Champagny, là, par exemple. Ouais, ce mec-là, c'est pile ou face.
Dire,
soit il te fait un 6 sur 9.
Et Barnes aussi, il a disparu.
Ouais, c'est vrai, Barnes, il a
Harrison Barnes, il a disparu.
Objectif top 4 pour San Antonio.
Il faut qu'ils
se mettent le premier tour dans la poche.
Carrément.
OK, ici est quand même très sérieux, hein, même s'ils ont eu un trou fin décembre, quand même le bilan est de 36-8. 36 victoires, 8 défaites, c'est assez impressionnant. Et Shai est sur une moyenne de 30 points par match. Eux aussi, le retour de H. Allez, j'y vais. Einstein, il sera.
C'est vrai qu'on a même oublié qu'il était un petit moment.
Ça se sent quand même. Des fois, au rebond, quand ils tombent sur des grands très physiques, ils ont quand même.
Parce que le grain, il est fin.
Ensuite, on retrouve nos deux contenders, Houston et les Nuggets, qui ont laissé quelques matchs surprises. Hein, parce que Houston a perdu Utah, les Nuggets ont perdu Charlotte. Tu te dis, des fois, ils ont des lâchés.
Houston,
Quand il y a des équipes cette année, même Charlotte, quand tu les vois jouer, c'est pas moche en fait.
Ouais, Charlotte, c'est même encourageant.
Je trouve qu'il y a des équipes comme ça. Tu vois, c'est un peu comme Portland qui est 9e.
Alors Portland,
je pense qu'on les mettait au fin fond aussi.
Portland, je vous avais dit en début de saison.
Mais puis même quand tu les vois jouer. En fait, ça, c'est agréable à voir jouer. Tu vois, moi, j'aime pas voir jouer les Lakers. Je déteste ça.
Ouais, moi, je suis d'accord.
Je trouve que. Mais même des fois, je préfère voir un match de Charlotte que de regarder les Lakers.
Mais je vais te dire.
Tu sais que tu vas pas t'ennuyer avec Charlotte.
Ouais. Bah, c'est ça.
Mais même Utah, hein, des fois, c'est super agréable à regarder, Utah.
Bon, après, ça attaque beaucoup à tout va. Et...
Oui.
Après. Charlotte, on en a déjà parlé, mais pour moi, la Melo Ball, c'est un gadget, quoi. Ils ont une belle équipe autour. Le rookie est super bon. Cugne Paul, là, il est vraiment très fort.
Ouais.
Et ils ont quand même un effectif solide. Diabaté fait une super saison.
Ouais,
on
n'en
a pas parlé, alors que c'est un travailleur de l'ombre et tout ça.
Ouais, mais tu vois, c'est des coachs, je trouve, qui laissent la chance à des joueurs qui est Diabaté ou même à Portland, t'as Rupert qui joue, alors que ça fait 3 ans qu'il est en NBA. À Portland, il n'a jamais joué. Et cette année, au moins, on lui laisse sa chance.
C'est le problème de Rizaché à Atlanta, tu vois. Il ne laisse pas jouer. Mais bon.
Arrivé à mi-saison, on était tous à peu près d'accord que la finale, ce serait certainement au KC New York.
Ah, moi,
on va
dit
se réviser. Oui, tu avais dit Denver, mais la majorité, c'était ça. Qu'est-ce qu'on pense ? Moi, je pense que New York.
À l'Est, ça va être difficile. Hein. Je ne sais pas qui est-ce qui sort. Hein.
Ouais, moi, je pense qu'il peut y avoir une grosse
Boston.
Surprise à l'Est. Un mec qui sort. Non, mais même un mec qui sort 3, 4, 5 pour aller en finale.
Ça ne pas New York.
Allez, c'est l'heure de jouer, mon buffer, on y va ou pas ? T'es pas prêt, tu vois, t'es pas prêt.
Ouais. T'es pas prêt.
tu baisses, t'es pas prêt. Alors, quiz du gosbo, quiz du gosbo. Allez, messieurs, on va jouer à question pour un champion. Comme à la bonne époque de Julien Lepers. Et oui. Je vous propose une question écrite et il faut retrouver un joueur. Et quand vous avez la réponse, vous dites votre prénom. Vous donnez la réponse, si ok un point, sinon vous n'avez plus le droit de jouer. Tout le monde joue, Buffa, tu notes les points, hein, incroyable.
Oui, bien sûr.
Allez, on y va. Top, je suis un sportif américain, je suis né le 30 décembre 1984. Je suis une star mondiale du basketball, drafté numéro 1 en 2003 par Cleveland. J'ai été champion...
LeBron James.
T'as pas dit ton prénom.
C'est LeBron James son prénom.
Il s'appelle LeBron James.
Un point quand même, mais un point.
Ah d'accord, ok.
Allez,
Alors je dis quoi? Je dis Pascal Lebrun.
Ouais, voilà. Pascal James.
Bon
Pascal. Attention. Okay. Top. Je suis un basketteur américain. Je suis né en 1991 en Californie. Je suis connu pour ma défense exceptionnelle. Drafté en 15e position par Indiana dans une équipe où je ne n'ai jamais joué. J'ai été champion NBA avec San Antonio puis Toronto. J'ai été élu MVP des finales à chaque fois. Pascal Kawhi. T'as pas dit Bruno? Ils comprennent rien aux règles, les auditeurs.
Ah, moi, je
suis entouré d'un groupe, les enfants.
Il va falloir acheter des buzzers, là, c'est trop gros.
Mais non. Déjà, faut te rappeler ton prénom.
On oublie.
Attention. Top. Je suis un basketteur américain. Je suis né en 2001. J'évolue en NBA au poste d'arrière, drafté en première position en 2020. Je joue pour la franchise du Minnesota.
Pascal Anthony Edwards.
Ouais. Ça va être un grand chelem, là.
Pascal Edwards.
Top. Je suis un basketteur américain. Je suis né en 1977. Je suis drafté 5e en 98 par les Warriors, mais transféré immédiatement. Je suis célèbre pour mon maillot qui est numéro 1 dans beaucoup d'esprits. Et je suis surtout célèbre pour mes dunks spectaculaires. J'ai remporté le concours de dunk
NBA. Pascal Vince Carter.
Ouais, Vince Carter. Top. Je suis un basketteur américain. Je suis né en 56 dans l'Indiana. Je suis drafté numéro 6 en 1978. J'ai fait toute
Pascal ma... Larry Bird.
Oui. Oui.
J'ai tout ce que j'ai pensé à dire, c'est Bruno.
Et puis la moitié de la réponse. Et Bruno.
Allez, on y va. Top. Je suis un basketteur américain. Je suis né en 1961. Je suis drafté à la 27e position en 1986. Mes voyages et mes relations font beaucoup réagir. Je suis surtout connu pour ma défense et mes rebonds. J'ai été champion NBA avec Détroit et Chicago.
Dennis Rodman.
Oui, Natif. Top. Je suis américain. Je suis né en 1996. Je suis drafté à la 33e position par Dallas. J'évolue au poste de meneur. J'ai remporté deux titres universitaires.
Pascal Jason Kidd.
Non, j'ai remporté deux titres universitaires. NCAA. Je joue pour la franchise de New York actuellement.
Brunson.
Bien.
Bruno Brunson.
Ah, celui-là, il va bien. Je suis un basketteur américain. Je suis né en 1974. Je suis drafté 4e par Washington. Je suis connu pour mon jeu à l'intérieur et mes tirs à mi-distance. J'ai joué pour plusieurs équipes NBA, dont Portland et Détroit. Et Détroit avec laquelle je suis champion en
2004. Pascal Rachid Wallace.
Oui. Oh là là, The Shield. Je suis né en 1977. Je suis célèbre pour mon passage au San Antonio Spurs, drafté en 57e position. J'ai remporté 4 titres NBA.
Pascal Tony Parker.
Non, j'ai remporté 4 titres NBA avec cette équipe. Je suis reconnu pour mes passes créatives et mon jeu explosif. Je fais partie des meilleurs joueurs internationaux de l'histoire de la NBA.
Ginobili, Bruno, Jim.
Oui.
Bravo. Un américain, moi.
Attention, top. Je suis un basketteur américain. Je suis né en 1976 et drafté en 1995 en 5e position. Je suis connu pour mon intensité et mon énergie sur le terrain. J'ai été champion NBA avec Boston en 2008, mais ma carrière est essentiellement à Minnesota.
Pierre Kevin Garnett.
Pierre Garnett.
On est en train de perdre Bruno.
Il est encore chié dans la colle avec Boston.
Mais je l'avais en plus.
Elle change d'équipe.
Attention, le dernier. Top, je suis le meilleur joueur de tous les temps.
Pascal Jordan.
Pascal Jordan.
Alors Bruno, il a dit Pascal. Mais j'ai l'impression qu'ils sont stressés. Moi, ils sont stressés. Hein. C'est un jeu.
C'est
ça, ouais. And the winner is...
Il n'y a pas match là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour monsieur Pascal.
Oh là là, bravo Pascal.
Merci.
Bravo, c'est formidable. Hein.
Merci.
Dis donc,
quel est qui paye la tournée ce soir.
Ouais, voilà, j'ai de regagner mon droit de payer ma bière.
Et ben voilà, monsieur. Alors bon, le temps nous est compté. On va pas attaquer le buzzer beater parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Et Rémi vient de faire son entrée dans le studio. Incroyable.
Can you dig it?
Et du coup, bah, on va passer aux dédicaces. Et là, vous avez un peu de temps, messieurs. Bruno, tu fais une petite dédicace.
Ah, dédicace à mes parents. On a deux auditeurs en Normandie. Et voilà, je pense à eux et je les embrasse.
Ah, ça, c'est bien.
Moi, je dédicace ma petite femme. Je fais un petit bisou. Voilà.
Un petit bisou.
Ouais.
Une petite dédicace pour mon fils.
Avec un prompt rétablissement.
Hashtag prompt rétablissement. Et hashtag prends ton mal en patience.
Ça va venir.
Et moi, dédicace au Château Blanc, l'émission qu'on a sur Radio Campus Amiens. Les podcasts sont dispo, allez les télécharger. Puis bien sûr, il faut télécharger aussi Monetime, hein, c'est très important. Et c'est, je pense que c'est pas mal, hein. C'est un peu mieux que, les, que la famille. Hein. C'est trop facile, les gars, ça.
94.9.
Ouais, puis moi, juste pour finir, je vous rappelle qu'il faut aller dans les salles, aller supporter nos belles équipes. Vous pouvez retrouver toutes les dates, toutes les horaires de match. Vous allez directement sur la FFBB si vous voulez un match n'importe lequel de votre équipe préférée. Mais il faut aller dans les salles avec un bon esprit. On n'oublie pas le bon esprit. Et sinon, on va faire un petit dédicace à Manu là, pour qu'il se reporte bien et qu'il nous revienne vite au loisir.
Il manque au loisir. Ouais. Manu, reviens vite.
Il va revenir. Il arrive.
C'est le bordel, Manu.
Reviens, Manu, c'est le bordel.
Juste une petite chose aussi. L'émission qu'on a ratée la semaine. Enfin, il y a 15 jours.
Et pour la neige.
Voilà. Elle est reprogrammée. Donc, le 4 février, ce sera notre émission spéciale le code des pivots.
Puis ne ratez pas ça parce qu'on n'est vraiment pas d'accord. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un débat. Bon, j'aurai raison à la fin, quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un débat.
Il y aura baston, un bagarre.
On vous remercie de nous écouter. C'était super sympa. On vous dit à bientôt. Et salut les potos.
Salut.